tous. Et dans l'actualité des idées aujourd'hui, faut-il dédiaboliser la nation? C'est en tout cas ce que fait notre invité dans un vibrant plaidoyer, La nation contre le nationalisme, qui paraît au PUF. Le politologue Gilles Delannoy, directeur de recherche au CEVIPOF, spécialiste du nationalisme et de la pensée politique contemporaine, nous rejoindra à partir de 12h55. Mais d'abord, elle est la vieille Marguerite, et elle a 25 ans seulement. Elle tient le rôle-titre de la nouvelle création de l'opéra comique Et in Arcadia Ego, révélation artiste lyrique aux victoires de la musique classique l'an passé. La mezzo-soprano Léa Desandré est notre invitée, à écouter tout de suite sur France Culture ou plus tard si vous le souhaitez en podcast.
Grande table, Olivia Gesbert.
Christophe Rousset à la baguette avec l'ensemble des talents lyriques qu'il dirige, l'excentrique Pia Ménard à la mise en scène et le romancier Éric Reynard pour les mots. Il signe ici l'entièreté du livret. Les Boréades, Dardanus, Castor et Pollux, Les Indes Galantes ou encore Les Surprises de l'Amour. Une partition composée de morceaux choisis de l'œuvre lyrique de Jean-Philippe Rameau, compositeur Sceau, 18e, incarnation du classicisme français. Seule en scène, la soliste Léa Desandré interprète tous les âges de la vie. Elle est Marguerite. Bonjour Léa Desandré.
Bonjour Olivia.
Comment la définir cette Marguerite?
Marguerite, c'est un peu tout le monde, si je puis dire. Avec Fia Ménard, la metteur en scène, on est parti sur vraiment l'idée que chaque spectateur peut s'identifier à Marguerite et qu'une réelle empathie doit se créer entre Marguerite et le spectateur. Donc c'est une femme de 95 ans qui, dans sa tête, en a toujours 25 parce que la jeunesse reste éternelle dans notre esprit, et qui s'est vue rencontrer une voix lors de ses 23 ans, qui lui a annoncé le jour de sa mort et qui lui a également promis célébrité durant sa vie. Et donc là, on se retrouve le jour de sa mort. Donc on pourrait y dire que cette heure et demie de spectacle sera un condensé de la dernière seconde avant de mourir, et que Marguerite repasse les trois étapes de sa vie, donc l'enfance, l'âge adulte et la vieillesse, puis meurt.
C'est une Marguerite qui se fane dans un compte à rebours enclenché dès le début de la pièce. Le chef d'orchestre, Christophe Rousset, a depuis toujours Rameau dans la peau. Il dit qu'il voulait avec sa pièce créer un nouveau Rameau qui valoriserait sa musique orchestrale si suggestive, sans ses livrets, pas toujours à la hauteur. D'où cette idée de Big Bang baroque, de best-of musical qui piocherait dans le meilleur de Rameau. Et vous voilà, vous, avec les Rameaux de Léa, tout Rameau en un seul rôle. C'est un cadeau, ça. Pour une chanteuse.
Oui, Rameau, c'est un vrai bonheur à chanter. La force de sa musique est frappante quand on l'écoute. On passe par plein d'affects différents, toujours très très bien retranscrits en musique. Et j'ai eu la chance donc, sur ce projet de travailler avec Christophe Rousset, qui est un maître en la matière de Rameau et qui m'a appris énormément de choses, qui m'a aidé à m'apprivoiser le style et à vraiment comprendre le langage de Rameau.
Enfin, le style ou tous les styles de Rameau réunis.
Tous les styles de Rameau. Mais quand je parle de style, je parlerai plutôt de tous les ornements, toutes les différences de broderie qu'on peut trouver à cette époque-là, et en fait qui sont multiples. Et on a rarement l'occasion de pouvoir approfondir la connaissance de ces ornements et de pouvoir aller vraiment au plus proche de ce qu'ils voulaient se faire à l'époque. Et là, Christophe Rousset ne m'a pas lâché sur la réussite des ornements et je suis vraiment heureuse parce qu'on arrive à rendre quelque chose de vrai, probablement de très proche de ce que Rameau voulait.
On respire, vous êtes prête?
Allez.
Thank you. 25 ans, on imagine qu'on cherche encore un peu sa voix. Qu'est-ce que ce répertoire, le répertoire de Rameau, vous a apporté ou vous apporte aujourd'hui encore dans cette quête, dans cette recherche ?
Le répertoire de Rameau, ça nous permet d'être toujours conscient de ce qui se passe harmoniquement, d'être proche de la déclamation aussi, très proche du texte. Là, c'est particulier car les textes ont été réécrits par Eric Reinhardt, donc c'est une autre approche, mais ça reste aussi quelque chose de très important. Après, vocalement, c'est vrai que je pense que toute sa vie, on continue à chercher qui l'on est, mais pas que vocalement, je pense, pour tout. Et Rameau demande une grande exigence aussi en termes d'ambitus et de lyrisme, parce que c'est une musique qui peut être par moments très dramatique. Donc grâce à Rameau, on continue à explorer toutes les facettes de la voix et à entretenir tout ce qu'il faut.
Et ça, c'est une performance pour Eric Reinhardt que vous venez de citer, écrivain, romancier, et qui signe ici l'entièreté du livret de cette nouvelle création. Clémence Marie l'a rencontré hier soir à l'issue de la première.
Je l'ai trouvée merveilleuse. Et puis surtout, je suis très impressionné de l'avoir porté toute seule ce spectacle pendant une heure et demie, à 25 ans, à incarner comme ça différents états de mon personnage Marguerite dans différentes situations de sa vie. C'est une sorte de monodrame. C'est toujours des prouesses incroyables pour les chanteuses ou les chanteurs, voilà, d'être seul sur scène et de porter tout le spectacle, parce que s'il se passe quelque chose, un accident, un oubli, je sais pas, ou la voix, un problème de voix, personne ne peut la rattraper. En plus, c'est vraiment difficile comme exercice parce que elle chante, mais elle incarne aussi un personnage dans différentes situations de sa vie, dans son enfance, l'âge adulte, la vieillesse, et donc ça ne marche que si Léa habite véritablement, en les comprenant de l'intérieur, ces différents moments, de l'enfance jusqu'aux portes de la mort. Donc ça exige d'elle une vraie richesse intérieure et puissance dramaturgique.
Et elle l'habite, Léa, ce rôle. Vous la comprenez, cette Marguerite ?
Oui, au fil des répétitions, je m'y suis presque identifiée. Parce qu'en fait, on s'est rencontrés en amont aussi avec Eric Reinhardt pour son écriture du livret. Et on a beaucoup parlé de mon enfance. Voilà, il s'est inspiré aussi de ce dont je lui ai parlé. Donc il y a des moments qui me parlent particulièrement, notamment quand on parle de Pont, de Venise. Tout ça, c'est ce que j'ai vécu. C'est des moments qui me rappellent des choses fortes. Et puis, comme je vous disais tout à l'heure, l'objectif de ce spectacle, c'est que tout le monde s'y identifie. Donc évidemment, je dois encore plus que tout le monde y croire et être Marguerite pour pouvoir le transmettre.
Muse et interprète, à la fois une pièce lyrique qui traite de cette jeunesse que l'on souhaiterait éternelle, du désir aussi d'immortalité. Alors on imagine que c'est plus simple pour vous de se projeter dans le rôle ou les pensées, l'intériorité de cette jeune Marguerite que dans celle qui se voit vieillissante, approcher la mort dans ce compte à rebours assez infernal. Comment faire pour que votre voix, toujours elle, traduise à elle seule aussi cet état de fébrilité et de révolte qu'est prouve Marguerite face au temps qui passe, face à la mort qui approche.
En fait, la voix laisse tout transparaître. C'est simplement l'état dans lequel on est, que ce soit psychologique ou physique aussi. La voix est transparente. Quand vous appelez un proche, vous entendez tout de suite à la voix si ça va ou si ça va pas. Quand on chante, c'est la même chose. Donc il faut simplement traverser l'aventure d'être in Arcadia Ego en même temps que Marguerite et vraiment avoir conscience que c'est de tout le parcours qu'elle va faire et ça vient naturellement et de par le texte aussi, le texte c'est un réel appui pour transmettre l'affect. Et voilà.
Alors après un extrait tout à l'heure des Surprises de l'amour, extrait du deuxième tableau, celui de l'âge adulte, on va voir comment cette voix rapporte ce sentiment d'angoisse ou de fébrilité, l'âge venant. On est là dans un extrait du troisième tableau de Hippolyte et Aricie.
Elle
Hop, on vous coupe en plein vol, Léa Desandré. Vous pouvez nous raconter ce morceau ?
C'est la pièce finale qui a été choisie pour ce spectacle. Sur cette pièce, on retourne au texte original de Rameau. C'est un petit peu un hommage au compositeur. Et c'est le moment où Marguerite meurt. Et ça, c'est un exemple du sublime de ce compositeur. C'est un mélange de Phèdre et du chœur, donc d'une voix seule et d'un chœur, qui démarre d'ailleurs seule, sans orchestre. C'est le moment où Marguerite est confrontée vraiment à la mort qui l'aspire, qui l'attire. C'est un moment extrêmement fort dans le spectacle, parce qu'en plus on est sur une pente à 45 degrés, donc le corps est chétif, dans un espace pas du tout confortable. Une très belle image qui rend bien le moment difficile de partir.
Le cœur que vous avez évoqué, qui incarne les éléments qui entourent Marguerite, la matière et l'espace qui la porte et qui l'isole en même temps dans ce monologue intérieur, c'est avec lui que vous échangez ?
Oui, c'est très particulier parce qu'habituellement on a affaire à des êtres humains avec qui on échange sur scène, nos collègues, sur qui on peut même se reposer dans le jeu en fonction des réactions des uns et des autres. D'un soir sur l'autre, on peut nourrir le jeu grâce à ça. Là, je suis seule pendant une heure et demie et mon unique collègue est la matière. Mais en elle, j'ai trouvé un collègue formidable parce que c'est vivant et ça change tous les soirs. On a de la glace, de l'eau, plein d'éléments différents sur scène. Et chaque soir, jusqu'à présent, a été différent. Et c'est un vrai point d'appui pour le jeu.
On est là, nous aussi, face à vous. Vous ne voyez pas quand vous chantez ?
Non.
Vous ne pensez pas ?
Je vous pense très fort, je vous imagine, mais je ne vous vois pas et je ne préfère pas vous voir.
Midi et quart sur France Culture avec Léa Desandré.
France Culture, La Grande Table, Olivia Gesbert.
Conte musical en trois tableaux, enfance, âge adulte, vieillesse et mort, précédé d'une ouverture séparée par deux interludes. Du jardin onirique de l'enfance à la prison des doutes de l'âge adulte suivra l'entonnoir qui rapproche la vieille Marguerite de sa fin. La difficulté d'écrire, d'imaginer un tel répertoire, comment a-t-il procédé ? Retrouvons Éric Reinhardt, toujours au micro de Clémence Marie.
Ce qui était passionnant dans ce travail, c'est le nombre très important de contraintes auxquelles j'ai été confronté. Lorsqu'on écrit des romans, a priori, on est libre de faire ce qu'on veut. Là, vraiment, j'ai dû tenir compte de beaucoup de contraintes. Et j'ai trouvé ça passionnant parce que ça m'a emmené ailleurs, disons. L'une de ces contraintes, et la première, c'était les tableaux, les visions scénographiques inventées par Fiaménard. Après, c'était donc la musique de Rameau. Et puis, pour la réécriture des airs, bien évidemment, il y avait la contrainte prosodique, le nombre de syllabes, et puis les accents. Voilà. Par moments, c'était tellement contraignant que j'ai disloqué la structure grammaticale des vers originaux de Rameau pour faire serpenter par-dessus l'ancienne structure grammaticale de nouvelles phrases. Et je trouvais ça assez intéressant, et j'en ai un peu parlé avec Léa, parce que dans certains airs, un point ou une fin de phrase dans le texte original de Rameau tombe au milieu d'une de mes phrases, et ça crée comme ça des moments de suspension émotionnelle que je trouvais intéressant. Donc c'est très difficile à faire. Et en même temps, ça apporte un grand plaisir parce que quand on trouve la solution, le mot qu'il faut, et ben là, c'est une vraie jubilation, quoi. Je hurlais dans mon bureau, oui, j'ai trouvé. Enfin, c'était vraiment un exercice très agréable à faire.
Vous hurlez, vous aussi, sur scène, dans votre bureau, dans votre salle de bain, votre chambre, Léa Desandré, quand vous avez trouvé la manière pour interpréter un rôle, cette petite chose qui vous manquait. Il y a cette quête permanente et ce plaisir de trouver, de la trouvaille.
Oui, absolument, en permanence. Même là, après le spectacle d'hier soir, il m'a fallu quelques heures avant de redescendre et d'arrêter de penser, d'être obsédée par le spectacle. Et ça a recommencé ce matin, et on est toujours en quête du meilleur. Et là, ce qui m'attend cet après-midi avant la première, c'est re-regarder ce qu'on a fait hier, les DVD, relire mes partitions, prendre le maximum de conseils auprès des dramaturges, chefs de chant, professeurs de chant. Voilà, là, je suis entourée d'une équipe extrêmement béton. Donc, la préparation se passe bien et ça me fait du bien.
Mezzo-soprano Léa Tessandré, Marguerite accepte de se voir confier un périlleux secret, la date exacte de sa mort. Vous l'avez évoqué, une tentation faustienne. Si vous connaissiez la vôtre, comment ça changerait votre rapport à la vie ?
Je crois que j'aimerais connaître le jour de ma mort. Ça me libérerait de beaucoup d'angoisse. Et après tout, c'est aussi beau de vivre sans savoir ce qui nous attend. Mais c'est vrai que ce spectacle met face à de réelles questions existentielles et que j'espère que le spectateur se posera ces questions lui aussi, parce que c'est l'objectif qu'on a essayé d'atteindre avec ce spectacle-là.
Elle la vit comment, sa vie, à partir du moment où elle connaît la date de sa mort? Quelle nouvelle perception elle en a et quelle image on lui renvoie d'elle aussi?
Alors en fait, ça c'est un travail qu'on n'a pas vraiment abordé, c'est-à-dire qu'on arrive vraiment au moment où elle va mourir. On n'a pas discuté de ce qui s'était passé dans sa vie avant pour ne pas trop marquer le personnage et pour que tout le monde puisse s'y retrouver. La seule chose que l'on sait de Marguerite, c'est donc qu'elle a été très connue durant une période de sa vie et qu'elle a eu affaire à des fans, à cette espèce d'oppression et de permanente, et se sentir cloîtré et ne plus avoir une image qui lui appartient en fait. Et peut-être que voilà, c'est quelque chose qui fait rêver beaucoup de monde, la célébrité, mais au final, Marguerite, ça l'a fait beaucoup souffrir.
Au début, ça la libère, elle explose, elle devient radieuse, elle irradie, et puis petit à petit, elle se fane. À partir de là. Comprendre l'œuvre et la réinterpréter, ce qu'en dit Christophe Rousset à la direction musicale de cette Et in Arcadia Ego à voir à l'Opéra Comique.
C'est l'attitude que j'ai d'une façon générale, que de respecter, de passer d'abord par le respect d'une œuvre et d'essayer de la comprendre par la fibre même de la composition de l'œuvre et pas imposer une vision préconçue. Je pense que ça n'a aucun intérêt pour un interprète que je suis que de rentrer dans une tradition. La tradition ne m'intéresse pas du tout. Moi, c'est de savoir ce qu'une œuvre me raconte, en quoi elle me bouleverse et comment elle pourra bouleverser le public. Et moi, ce que je demande à mes chanteurs, c'est avant tout de me raconter ce qu'ils sont en train de dire et de trouver une cohérence par rapport à ce que la musique nous raconte et par rapport à ce que le texte nous raconte. Et donc, de replacer ça dans une dramaturgie, c'est une chose essentielle.
Christophe Rousset, qui a contribué avec William Christie à dépoussiérer le baroque et qu'on entend évoquer l'importance aussi de la dramaturgie. Et à ce propos, il faut quand même souligner que dans cette pièce, dans cette création, ce conte musical, ce rôle qui vous est attribué mobilise autant votre voix que votre corps, Léa Tessandré. L'occasion peut-être de mettre aussi à profit pour vous vos années de danse. Comment vous faites cohabiter les deux? Quelle dramaturgie vous avez imaginée? Est-ce qu'il y a un découpage entre le corps et la voix dans la manière de procéder, ou qui précède l'autre?
Non, pour moi, ça va totalement ensemble. Et plus le corps est engagé, plus la voix sera libérée. Donc au final, bien que la mise en scène soit assez contraignante dans le sens physique, que j'ai eu besoin de me préparer pour pas mal de tableaux. Il y a un tableau qui se passe au ralenti, donc au niveau des muscles, on peut très vite se figer et perdre toute détente, ce qui du coup va venir en conflit avec la voix. Plus on a travaillé les tableaux, plus l'aisance s'est faite et le rapport voix-corps est évident. Si on est bien dans son corps, on prend aussi le plateau différemment. Il y a un rapport aussi différent qui s'installe avec le public, une aisance en plus. Le corps est un atout. Et pour le jeu, c'est essentiel. Donc j'étais très heureuse d'avoir à être impliquée davantage physiquement. Et c'est d'ailleurs une de mes demandes permanentes auprès des metteurs en scène. Donc je crois qu'ils commencent à le comprendre.
Et in Arcadia Ego, la scène, le plateau, et votre Arcadie à vous, Léa Tessandré, votre paradis?
Bah, j'en ai pas un, c'est tous les jours. Je vis dans un rêve, donc.
Et vous vivez aussi bien hors plateau, hors scène, que sur la scène, ou c'est ce moment où vous vous révélez à vous-même ?
Non, j'essaie de vivre chaque instant de manière très forte, que ce soit maintenant, que ce soit tout le temps. Donc sur scène, c'est un peu une autre moi qui me permet peut-être dans la vie d'être bien, de lâcher toutes mes angoisses sur scène, et puis dans la vie de profiter.
Vous êtes toute mince, toute gracile, Léa Desandré, plutôt de sec que Castafiore. Et c'est aussi peut-être intéressant à rappeler, vous êtes passée d'abord par la danse pendant des années, vous avez ensuite commencé à chanter, mais avec quelques préjugés sur les chanteuses lyriques, avec cette idée qu'elles étaient toutes de vastes mamas sur scène qui donnaient de la voix. Qu'est-ce qui vous a fait trouver votre corps à vous et votre voix à vous ?
En fait, c'est vrai que ma grand-mère était chanteuse lyrique. Et quand j'étais petite, je me souviens régulièrement, pas me moquer d'elle, mais la prendre en riant quand elle chantait. Et puis, la danse est venue très tôt dans mon parcours. J'ai fait beaucoup de danse classique de manière très, très intense. Les comédies musicales aussi, c'était ce qui me passionnait. Et tout ça a fait qu'un jour, je suis tombée sur un reportage de Nathalie Dessay, ce petit bout de femme extraordinaire qui, en plus de jouer magnifiquement bien, avait une voix splendide et une musique propre à elle qui m'a touchée tout de suite. Et j'ai vu en elle la combinaison de tout ce que j'aimais, pouvoir danser, chanter, jouer, parler de poésie, voilà. Et elle m'a fait rêver et ce rêve a grandi et me voilà aujourd'hui chanteuse, c'est devenu mon métier.
Vous chantez souvent, parfois, en tout cas à Aix. Vous avez notamment été dirigée par Emmanuel Haïm pour un rôle dans Eris Mena en 2017, c'est-à-dire l'an passé. On vous a retrouvé dans le rôle de messagère dans l'Orfeo de Monteverdi avec les arts florissants, sous la direction de Paul Agnew à la Philharmonie de Paris. Puis à Vienne, l'année d'avant, vous aviez chanté des extraits de Fairy Queen de Purcell avec William Christie à la Philharmonie je crois, du Luxembourg, avec la le philharmonique du Luxembourg.
C'était au Luxembourg,
c'était ça. Et puis, on vous a vu aussi sur la scène des Victoires de la Musique. Aux Victoires de la Musique, vous avez chanté un air de l'oratorio Judith triomphant d'Armate Fatché de Vivaldi, et ça donnait ça. Et avec cette victoire, ça a été le début, Léa Desandré, de l'exposition médiatique. Ça y est, c'est parti, tout est parti vraiment de ce moment-là où tout a commencé à s'enchaîner à vitesse grand V.
Ouais, les victoires, ça a mis un boost à tout ça. Après, j'avais déjà des personnes qui m'avaient fait confiance, comme notamment l'Opéra Comique, William Christie. Voilà, il y avait plein de choses, de belles choses avant, mais les victoires, ça a assis quelque chose. Et c'est vrai que c'est parti un peu quoi, mais
qu'est-ce qui suivra ?
Plein de belles choses. Le plus important, c'est de faire de la musique avec des gens qui nous inspirent. Donc là, cette année, je vais à Salzbourg cet été. Ça, c'est un moment très important pour moi parce que c'est un lieu mythique. Et puis voilà, moi, j'essaie de construire mes projets avec vraiment des gens qui m'apprennent plein. J'ai envie de me dépasser constamment. Donc les projets de cette année sont dans cette lignée-là.
Léa Desandré, pardon, avec Christophe Rousset, donc à la direction musicale, avec Pierre Ménard, la chorégraphe, à la mise en scène, avec Éric Reinhardt pour l'écriture de ce livret. C'est à voir en ce moment, ou à partir du 1er février, à l'Opéra Comique, Et in Arcadia Ego, du 1er février au 11, si les dates incrustées dans ma petite mémoire sont justes, pour une fois. Merci mille fois à vous.
Merci à vous.